Europe 1.
Europe 1, 10h-11h, Mediapolis. Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, c'est samedi, c'est Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politique, réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Paul Lassène, l'homme qui sait tout faire, même trouver de quoi écrire à la dernière minute. Et nous avons deux invités aujourd'hui, Laurent Bigorgne, qui est directeur de l'Institut Montaigne, et Dominique Régnier, qui est directeur de la Fondation pour l'innovation politique. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, ce sont donc des think tanks, comme on dit aujourd'hui pour faire chic. En vérité, des clubs d'idées, des clubs de réflexion, même si littéralement, ça veut dire penser bidon, puisque tank, c'est un bidon.
Non, ça veut dire réservoir de pensée. Mais...
Réservoir de pensée, dit Laurent Bigorgne, qui est très,
source
très, très chatouilleux sur le fait que l'on ne critique pas ce type d'institution. Allez, on commence tout de suite avec le canteloup en arrêtant-nous les blagues.
Après l'attentat de Strasbourg, l'Élysée a annoncé que la France passait au niveau d'alerte urgence attentat. On est avec le président des Républicains. Bonjour Laurent Wauquiez.
Madame Julie.
Ah, solennel.
C'est ça votre réaction? C'est tout ce que vous trouvez à dire?
Quoi?
Vous ne trouvez pas que c'est indécent?
Bah, quoi?
Une journée comme aujourd'hui, la France est sous le choc. Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est me dire bonjour, monsieur Wauquiez. Je me souhaitais, pour résumer, une bonne journée. Faites attention, prenez garde. Les Français n'oublieront pas votre réflexion.
Oh, ça va, ça va. Que pensez-vous de ce passage au niveau d'alerte urgence attentat?
Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser à une chose. Attendez un instant.
Oula, attendez, c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que vous faites là?
Je passe en niveau alerte. Urgence, ah, récupération. Niveau d'alerte, urgence et récupération, c'est cet individu, écoutez-moi bien, était fichés.
Ouais.
Il faut les enfermer préventivement, les fichés. Il faut les expulser, les radicaux. Il faut interdire le salafisme. Il faut que j'aille plus vite que Marine Le Pen. Il faut ces électeurs, que ces électeurs, pardonnez-moi, votent pour moi. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que...
Dites donc, monsieur Wauquiez.
Ah, Marine Le Pen, bonjour à vous
aussi. Oui, bonjour, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Wauquiez, un peu de décence, s'il vous plaît. Les Français méritent mieux que cela, n'est-ce pas, monsieur? Et les Français méritent que cet attentat, n'est-ce pas, soit récupéré par des professionnels de la récupération. Nous, excusez-moi, madame Leclerc, mais au Rassemblement National, nous avons 45 ans. Oui, 45 ans d'expérience en récupération diverse. Donc, n'essayez pas, monsieur Wauquiez, de duper de façon éhontée nos concitoyens.
Ok, merci à tous les deux.
Voilà, c'était donc Nicolas Canteloup, jeudi 13 décembre. Je note un détail, c'est qu'il lui donne comme titre de langage, n'est-ce pas, alors que c'est le tic de langage de Jean-Marie Le Pen, n'est-ce pas? Le tic de langage de Marine Le Pen, c'est encore une fois. Et d'ailleurs, je vous mets au défi de trouver une intervention de Marine Le Pen de plus de 2 minutes sans qu'elle dise encore une fois. Juste un instant sur ce... Sur ce sujet, Dominique Régnier, est-ce que Canteloup exagère lorsqu'il caricature Wauquiez comme courant derrière Marine Le Pen?
Oh, c'est une caricature, donc il y a toujours de l'excès dans la caricature, c'est l'exercice lui-même, mais il y a quelque chose qui en même temps dit une forme de vérité. Les Républicains ne sont pas arrivés, en tout cas jusqu'à présent, à trouver leur place entre La République En Marche et cette droite populiste qui d'ailleurs inclut Nicolas Dupont-Aignan, et c'est aussi une des difficultés. Il n'y a pas beaucoup d'espace et manifestement le choix qui a été fait, c'est de ne pas investir une espèce de centre-droit modéré, plus libéral, parce que probablement que les responsables des Républicains pensent que là il n'y a pas d'espace, qu'il est occupé par Emmanuel Macron. C'est un choix qui est compliqué en effet, oui.
Et il a raison, le choix de Wauquiez, il est le bon.
Moi, je pense que c'est une erreur de la droite, y compris de Laurent Wauquiez, mais de la droite depuis très longtemps, de ne pas avoir construit un discours de type libéral, modéré, européen, pro-business, pro-entreprise, pro-emploi. C'est une histoire maintenant très ancienne. C'est un choix qui a été fait, ou reproduit en tout cas, de leader en leader, et qui a... totalement abandonné. C'est un des sujets de votre émission aujourd'hui, Olivier Duhamel, qui a par exemple totalement oublié de s'intéresser au monde de la petite entreprise, qui aujourd'hui est un des éléments qui vient nourrir la colère des Gilets jaunes.
Laurent Bigorgne, vous êtes d'accord ou vous êtes plutôt sur la ligne Buisson?
Je trouve qu'il y a, de façon générale, les Républicains, de ce point de vue-là, sont emblématiques, une immense paresse des appareils politiques français. Il y a très peu de réflexion. je suis assez bien pressé pour le savoir, puisque le métier d'un think tank, pour le redire à ceux qui nous écoutent ce matin, c'est de contribuer à cette réflexion politique, et d'ailleurs sur l'ensemble du spectre. On peut tout à fait avoir telle ou telle orientation et malgré tout parler en démocratie à des gens qui ont une orientation différente. Ce que je note, c'est que les organisations politiques telles que nous les connaissons aujourd'hui sont dans l'instant, sont dans le moment, sont incapables de poser un agenda, incapables de travailler sérieusement. Citez-moi une proposition formulée récemment ou depuis 2 ans par les Républicains qui ait été travaillée, qui ait donné l'objet, enfin fait lieu d'un grand débat ou qui ait été reprise. Je serais incapable de le faire.
Alors vous dites qu'ils sont dans l'instant. Justement, il y a eu un commentaire intéressant du peu conformiste éditorialiste d'Europe 1, Vincent Herouette, à la suite de l'attentat. Écoutez.
Le terrorisme cherche à sidérer pour soumettre. Cette menace islamiste n'a jamais cessé, même si elle n'obsède plus. Et c'est même le contraire. Cet attentat est le 3e de l'année. Mais il faut une tuerie pour qu'on reparle des revenants qui ne reviennent plus, des sortants, ceux qui ont purgé leur peine, de ceux qui se radicalisent dans leur coin et des réseaux qui dorment, pour qu'on s'interroge sur les fichés S, qui ont l'air de s'en ficher pas mal, sur le mélange des gens entre voyous et terroristes, sur les armes en circulation, et avec toujours l'impression d'un jour sans fin, d'une émission spéciale sans cesse renouvelée.
Alors oui, on avait oublié l'islamisme terroriste.
Alors, les services de l'État n'ont pas oublié, ils ont même été plutôt... Je trouve, je ne suis pas un spécialiste des questions de justice ni de police, mais assez remarquable dans l'affaire de Strasbourg. Je vous renvoie à un billet qui a été publié sur notre site de l'Institut Montaigne par Hugo Micheron, un jeune doctorant, qui resitue l'épisode tragique que nous venons de vivre, au fond dans une séquence qui a commencé en 2012 avec l'affaire Mera, qui d'ailleurs situe bien la proximité sociologique entre Mohamed Mera et le terroriste qui a été abattu cette semaine. Le problème, il est là. Il y a des services compétents pour le traiter. Ce qui me frappe un peu, c'est qu'on est énormément, et c'est normal, sur le problème que je qualifierais de haute fréquence, c'est-à-dire de l'attentat quand il arrive, de l'événement tragique. Et puis effectivement, ensuite, il n'y a pas nécessairement le travail qu'il faudrait dans la constance sur les causes profondes ni sur les causes racines. Jeune homme qui a été abattu cette semaine, il n'a pas de lien avec la Syrie, il n'a pas de séjour référencé, sauf erreur de ma part, en Irak ou en Turquie ou ailleurs. Donc il faut quand même chercher à comprendre pourquoi ça arrive, et il faut chercher à comprendre où les instruments de politique publique, d'action publique sont déficients, à commencer par la prison.
Mais pourtant, ce qui se passe quand ça revient dans la discussion publique, parce que l'événement l'impose, la plupart des politiques, à ce moment-là, ont tendance à quand même se précipiter sur les mesures sécuritaires les plus lourdes et ne pas avoir grand-chose d'autre à dire. Est-ce que ça, c'est pas quand même un vrai risque pour notre démocratie? Dominique Régnier, dans quelques instants, vous nous répondez.
Ce samedi dans Mediapolis, on retrouve autour de vous Olivier Duhamel, le directeur de l'Institut Montaigne, Laurent Bigorgne, et le directeur de la Fondation pour l'innovation politique, Dominique Régnier.
Et justement, Dominique Régnier, il me semble que un des problèmes de la politique aujourd'hui, du monde politique et même du débat public, c'est une forme d'envahissement par l'irrationalité. Et il y a l'irrationalité totale, absolue, extrême, qui est le complotisme. On va y venir dans un instant. Mais je crois qu'il y a une autre irrationalité qui est le faux bon sens. Et quand il se passe quelque chose comme la tuerie de Strasbourg, aussitôt on ressort, mais il n'y a qu'à expulser tous les fichiers S étrangers, il n'y a qu'à mettre en détention tous les fichiers S qui sont fichés pour radicalisme. Il n'y a pas quelque chose de dangereux dans le fait que les politiques n'osent plus finalement aller à contre-courant des réflexes immédiats de l'opinion?
En matière de sécurité, je pense que c'est pas nouveau. Ça, on a déjà une très longue histoire qui se compte peut-être même en décennies de surenchère politique sur des questions de sécurité. Mais de l'autre côté, par rapport à la situation présente qui est quand même singulière, il me semble qu'il y a un peu la même crise. Je vais rapprocher deux sujets. En tout cas celui-ci d'un autre. Lorsqu'il y a des manifestations en ce moment, chacun l'aura remarqué, il y a beaucoup de casses qui a lieu, des débordements qui choquent tout le monde. Et l'idée qui commence à germer, c'est qu'il faudrait moins manifester pour éviter ces destructions. Aussitôt on dit, bien sûr, ce n'est pas possible, il y a la liberté de manifester. Ou de l'autre côté, il y a tous ces islamistes potentiels qu'il faudrait enfermer préventivement. C'est pas possible parce que le droit, l'état de droit ne l'autorise pas, mais en même temps, c'est très dangereux de ne rien faire. Je trouve que l'époque, elle est plutôt celle du grand désarroi que la crise d'un bon sens ou d'un pseudo-bon sens. Celle du grand désarroi parce que sur ces deux sujets-là, je crois qu'on ne sait pas quoi répondre en réalité.
Laurent Bigron ?
Oui, mais je pense que Dominique Rigny dit excellemment les choses. Au fond, on va, et c'est une espèce de pente hein, qu'on descend, on va vers les idées simples. On va aussi vers les idées simples parce que c'est celles qui passent le mieux en quelques centaines de caractères ou en quelques secondes à la radio ou à la télévision. Il ne faut pas se leurrer, ni se cacher, ni se voiler la face. C'est comme ça. Et je crois qu'effectivement, on distingue de mieux en mieux ceux qui continuent, et c'était un peu l'ambition du président de la République dans la campagne, d'avoir une pensée complexe. C'était l'apologie du « en même temps » mais qui a pu virer parfois une forme d'impasse. L'apologie donc du « en même temps » ou de la pensée complexe compte effectivement une pensée simple qui va vous dire « au fond, interdisons les manifestations et interdisons à ceux qui sont fichés S de pouvoir exercer leur droit à la liberté ». Ça ne fonctionnera pas comme ça. Ou alors, il faudra changer, et vous savez mieux que quiconque, Olivier Duhamel, hein, il faudra changer le régime et ses institutions. Ensuite, on peut chercher à expliquer. Je prends par exemple l'exemple des manifestations. Pourquoi ça casse ? Ça casse dans le cas précis, et Dominique a raison de rappeler que c'est sur la longue période que ça casse, mais beaucoup plus ici qu'à d'autres moments, parce qu'il n'y a pas de service d'ordre. Il n'y a pas de service d'ordre parce qu'il n'y a pas de mouvement structuré. Il n'y a pas le service d'ordre de la CGT. Il n'y a pas le service d'ordre des grands partis politiques ou des organisations qui, depuis en gros le début du XXe siècle, encadraient les mouvements sociaux. On est sur un mouvement social et un peu anti-politique, très spontané, donc très désorganisé. Et ce mouvement, j'aimerais insister sur ce point, c'est celui d'une double instrumentalisation. Ce qu'on voit depuis 5 semaines, c'est à la fois des casseurs qui instrumentalisent les gilets jaunes, c'est-à-dire qu'ils profitent d'un bouclier humain, parce que les forces de police ne peuvent pas exercer sans doute toute la violence qui pourrait être nécessaire à certains moments dans un cadre légitime vis-à-vis de cortèges qui sont des cortèges sans aucune mesure. Mais il y a aussi une instrumentalisation par les gilets jaunes, des casseurs. C'est de la violence par procuration. Mmh. Ça dit au pouvoir, vous savez quoi, on sait qu'en appelant à mobiliser, il va y avoir de la casse, mais ce n'est pas nous. Nous, on était très très pacifiques, mais en réalité, ils savent très bien le résultat que cela produit. Et cette instrumentalisation dont je dis qu'elle est consciente est pour moi un vrai problème parce qu'on n'y a pas apporté de réponse à ce stade. Il y a une pulsion de ce point de vue-là, de rapport de force avec l'État, qui n'est pas portée par une organisation, un parti, mais qui est latente et qui pose problème pour l'avenir parce que rien n'est réglé à ce jour.
Et cela est toléré, voire parfois soutenu par une partie des Français, à cause, je pense, de l'étendue de la défiance. Et ça, c'est aussi ce que révèle le complotisme. C'est-à-dire, quand on entend une théorie complotiste délirante, je pense que le premier ressort de ce délire, c'est la défiance totale vis-à-vis de ce que l'on vous dit ou vis-à-vis de ce qui se passe. Écoutez l'incroyable commentaire sur l'attentat de Strasbourg par un des, entre guillemets, leaders des Gilets jaunes, le célèbre Maxime Nicole, dit Flying Rider.
En fait, il y a des gens qui aiment bien diffuser des infos avec des mots fusillade, attentat, mort. Ah, je sais qu'il y a, il y a eu des coups de feu, il y a des blessés, il y a peut-être un décès. Mais ça se trouve, c'est juste un fou. Donc pour l'instant, personne ne sait rien. Et si c'était un attentat, dites-vous bien que le mec qui veut faire un attentat vraiment, il attend pas qu'il y ait 3 personnes dans une rue le soir à 20h. Il va en plein milieu des Champs-Élysées quand il y a des millions de personnes et il se fait exploser. Ça, c'est un vrai attentat. Le reste, c'est des effets pour faire peur.
Donc il décrète d'emblée que ce n'était pas un attentat. Et je pense qu'il est assez largement cru. Comment on fait par rapport à ça, Dominique Rigny ? Comment on fait quand vous avez des gens qui ont une certaine popularité, qui ont des centaines de milliers de personnes qui vont les voir sur Facebook et qui croient à ces théories assez insensées, d'ailleurs dont le caractère intégralement insensé a été prouvé par le simple fait qu'il était abattu avant aujourd'hui, si ça avait été à supposer qu'un pouvoir soit fou et ignoble au point d'organiser un attentat, et ben il aurait attendu avant de mettre un terme à la cavale que la journée d'aujourd'hui soit passée.
De toute façon, il est impossible de prouver quoi que ce soit à un tenant du complot, puisque s'il n'y a pas de preuves, c'est que les choses sont très bien dissimulées. Donc on n'y arrivera pas de ce point de vue-là. Mais moi, il me semble que la propagation du complotisme qui a ses raisons techniques, les outils numériques qui sont merveilleux et en même temps terribles, est aussi l'expression d'une époque où beaucoup de nos compatriotes, et sans doute aussi nous pour partie, enfin nous sommes perdus dans ce qui se passe. Il est très difficile d'expliquer la marche du monde, d'expliquer ce qui nous arrive collectivement. Les bouleversements sont en tous sens et affectent tous les registres de nos vies. Et le complotisme vient proposer une explication simple. Il y a des raisons cachées au malheur qui vous frappe. C'est en quelque sorte relativement rassurant. Et nous ne sommes pas en mesure nous-mêmes, avec toute l'intelligence qu'on peut mobiliser collectivement, de donner des causes claires au monde tel qu'il est et surtout de dire où il va. Donc cette pensée complotiste, elle ne peut que se propager et se développer.
Et donc, ça n'est pas rassurant, contrairement à ce que vous dites, Dominique Régnier. Non, ça n'est pas rassurant que plus le monde est complexe, plus on devient fou. Et on y revient dans quelques instants.
De 10h à 11h, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel. Et Olivier, vous recevez aujourd'hui le directeur de l'Institut Montaigne, Laurent Bigorgne, et le directeur de la Fondation pour l'innovation politique, Dominique Régnier.
Dominique Régnier qui donc a eu un texte censuré sur Facebook parce qu'il défendait l'idée de souveraineté européenne. Je pense vraiment qu'il s'agit d'un bug là.
Non, ça a été fait, en plus ça a été censuré deux fois. Initialement sur le magazine en ligne Dealer, D-I-S-L-E-R,
qui a publié. Pas Dealer.
Non, voilà, j'imagine c'est le jeu de mots, mais enfin c'est pas simple à l'antenne. Qui a publié le texte sous la forme d'une chronique, qui a été censuré. Moi ensuite j'ai tenté de le faire sur ma page, j'ai été censuré.
Bon, vous nous donnerez le fin mot plus tard. Parce que
je ne l'ai pas encore, en tout cas.
Il faut l'avoir. Et alors, vous voulez en rajouter, vous, Laurent Bigorgne ?
Oui, parce qu'il faut
équilibrer. C'est la fête des réseaux sociaux ce matin.
Il faut équilibrer. Il y avait eu ce papier d'un éditorialiste du New York Times il y a deux ans qui expliquait qu'il avait créé un bot, c'est-à-dire un petit robot, avec la complicité d'un développeur, pour aller traquer, au fond, ce qu'on appelle les trogs, se faisant passer pour des musulmans ou des juifs sur Twitter et s'immisçant dans des conversations pour dire, vous savez, je suis imam et je peux vous dire une chose, c'est que les musulmans sont des gens insupportables. Ou je suis rabbin et je peux vous dire une chose, et en connaissance de cause, les juifs sont insupportables. Et ce bot, ce robot, permettait instantanément de détecter les trolls, de vérifier qu'ils n'avaient pas d'autre identité que
d'être... Les trolls, c'est-à-dire les faux...
Exactement, les faux comptes. Qui a été débranché du réseau ? Le robot. C'est-à-dire que Twitter, quand quelqu'un vient perturber la conversation, même si cette conversation, évidemment, est raciste ou antisémite, va préférer retirer le robot, qui est un empêcheur d'audience, plutôt que de faire de la curation, de la modération, de la police sur son réseau.
Bon, mais alors, si on passe à la séquence d'après les réseaux sociaux, puisque dans le fond, on commence à essayer, au bout de bientôt un mois, de comprendre un peu mieux ce mouvement et tout ce qui s'est passé avec lui, il y a quand même eu derrière... immédiatement le double emballement médiatique et sondagier, Dominique Régnier.
Oui, il y a un emballement médiatique et sondagier, oui, lié aux réseaux sociaux, mais c'est aussi parce que, je pense, là, ça c'est le propre de l'événement Gilets jaunes, dans sa profondeur même, ce surgissement, cette forme inédite, sans précédent, et qui sans doute nous apparaît à tous, en tout cas à tous ceux qui sont très sensibles à l'importance de ce mouvement, comme la marque d'une profondeur, d'une substance, de quelque chose qui est très sérieux et à prendre au sérieux.
Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'il y aurait eu consciemment chez certains, inconsciemment chez d'autres, pour expliquer la ferveur que je maintiens, au moins pendant les 15 premiers jours, voire les 3 premières semaines, la ferveur des médias envers ce mouvement, quelque chose qui ressemble à une prise de conscience ou à une culpabilité que, dans le fond, il s'était pas beaucoup occupé de la souffrance sociale, qu'on était très polarisé sur les débats politiciens, sur ce qui se passait dans le microcosme, mais pas sur la souffrance des gens. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ?
Il y a eu beaucoup de couverture médiatique sur une forme de souffrance sociale, mais il y a toute une France, ça je crois que c'est très réel, ça, qui ne pose pas de problème et dont on a pensé qu'elle n'avait pas de problème parce qu'elle n'en pose pas. Et c'est un peu ça, les Gilets jaunes. C'est une France qui a beaucoup de problèmes, qui n'en posait pas jusque-là et qui, aujourd'hui, considère qu'elle n'est plus en mesure de ne pas exprimer les problèmes qu'elle subit ou qu'elle vit. Et ça, c'est cette France-là qui a été sous-estimée.
Et ça, du coup, Laurent Bigorgne, ça expliquerait à la fois une forme de faveur médiatique et à la fois l'étonnant quand même dans son ampleur et dans sa durée, même si on distingue, comme il faut le faire, soutien et sympathie, l'ampleur de l'adhésion d'une partie des citoyens français à ce mouvement.
Il n'y a jamais une cause. Il y a un enchevêtrement de raisons.
Oui.
Une partie des raisons, on les connaît, elles ont d'ailleurs été rationalisées, verbalisées par le principal intéressé. C'est un certain nombre d'erreurs qui ont été commises par le président de la République. Il l'a dit dans son intervention, et voilà, ça c'est instruit.
Vous avez dit, il me l'a dit là ?
Non, il l'a dit dans son intervention, et donc ça paraît instruit. Une des causes que moi je vois, une des raisons que je vois, il y a toutes celles que vous indiquez, je ne vais pas les discuter, je suis d'accord avec. Une des raisons qui, pour moi, est assez profonde, c'est que ce mouvement arrive après un certain nombre de turpitudes financières et juridiques de deux des partis qui avaient une fonction tribunicienne ou d'exutoire. C'est-à-dire le Rassemblement National, qui lui aussi est pris aujourd'hui dans des difficultés, dans des turpitudes juridico-financières, et la France Insoumise, après ces images si terribles de toute une partie des dirigeants de la France Insoumise s'opposant à la force de la loi et du droit. Je pense que ça compte énormément. C'est-à-dire que quand les partis qui sont censés porter la colère ou qui ont préempté la colère sociale pour la portée d'enjeux politiques, eux-mêmes sont en échec ou vus comme des instruments de concussion, de corruption ou mal financé, ne respectant pas le droit, vous avez un nouvel affaissement de la scène politique.
Sauf j'ajoute que j'objecte.
Mais j'irai jusqu'au bout. Vous objecterez, c'est promis. J'ajoute que ça se fait aussi dans un contexte. Mais je ne vous dénie pas ce droit.
Oui. Allez-y rapidement alors.
Avec ma pensée bidon. Et donc, je vais au bout. Ça arrive aussi au moment où les principaux appareils syndicaux qui ont la même fonction connaissent exactement les mêmes turpitudes.
Sauf que j'objecte sur le fait que vous mettiez la France Insoumise et Rassemblement National dans le même sac. Il me semble que le Rassemblement National, les affaires sur lesquelles il est visé concernent moins les Français. C'est des histoires d'assistants parlementaires européens, ça n'a pas grand-chose à voir. Il n'y a pas eu la mise en scène qu'on a connue. Avec Jean-Luc Mélenchon.
Et aujourd'hui, soustraction à la justice.
Et aujourd'hui, qui profite du mouvement, c'est le Rassemblement National et pas la France Insoumise, ce qui met quand même un bémol à votre analyse. Vous me répondez, d'abord arrêtez votre blague de pensée bidon, parce que ceux qui ont loupé le début de l'émission vont croire qu'on vous a attribué une pensée bidon. On vous a jamais attribué une pensée bidon. On a rigolé sur la traduction littérale de think tank.
Je rebondissais sur la rigolade.
Oui, mais je dis ça pour que quand même... tout le monde sache raison garder sur ce point, mais vous répondrez dans quelques instants.
Mediapolis continue avec vous, Olivier Duhamel, mais avec aussi Dominique Régnier, directeur de la Fondation pour l'innovation politique, et Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne.
Bon, alors je précise un instant à nos auditeurs qu'il ne se passe pas d'événements très particuliers. Quelques centaines de gilets jaunes sont sur les trottoirs des Champs-Élysées, pour l'instant de façon paisible, d'autres près de l'Opéra, beaucoup moins d'interpellations. Donc on en revient à notre sujet. J'ai un désaccord avec Laurent Bigorgne. Je pense que qui disait que une des raisons du succès du mouvement, c'était que était discrédité la France Insoumise et Rassemblement National, notamment à cause des affaires qui les concernent. Moi, je disais qu'il y avait, me semble-t-il, une grande différence entre les deux, et que dans la récupération politique, c'est tout un art. Et vous pouvez pas faire la récupération politique avec vos gros sabots, parce que ça se voit. Et le problème de Mélenchon, c'est qu'il y va avec ses gros sabots, alors que Marine Le Pen y est allée beaucoup plus subtilement, et c'est pour ça, je crois, que ça lui profite. Laurent Bigorgne, puisque vous êtes notre invité, je vous laisse me contredire et après je demanderai à Dominique Régnier de nous arbitrer, ce qu'il fera sûrement avec une très grande prudence.
Et beaucoup d'intelligence. Le point, c'est que peut-être je peux souligner deux choses, mais que je verse à la discussion, je ne prétends pas du tout détenir quelque vérité que ce soit. On ne connaît pas ce mouvement. En réalité, on ne le connaît pas. Le premier point, c'est que j'étais frappé de la surpondération parmi les porte-paroles autoproclamés ou proclamés des Gilets jaunes, effectivement, de gens venant de l'extrême droite. Est-ce que c'est de l'infiltration ou est-ce que c'est de la déception par rapport au Rassemblement National ? Premier point. Deuxième point, quand je regarde un sondage qui est, semble-t-il, été retracé dans les colonnes du JDD la semaine dernière, effectué les 5 et 6 décembre, donc tout ça, c'était il y a un siècle, où on testait la présence d'une liste gilets jaunes aux européennes. C'est intéressant parce que les européennes, on le rappelle à nos auditeurs, elles auront lieu dans un cadre national, c'est une proportionnelle intégrale.
Ça coûtait aux deux.
Ça coûtait aux deux. Ça coûtait au Rassemblement National et ça coûtait au Front National. On n'en sait rien pour la suite.
Sur d'autres indicateurs, on voit un progrès de Marine Le Pen et pas de Mélenchon. Dominique Régnier.
En fait, il n'y a pas beaucoup de surprises dans l'évolution potentiellement électorale de cette scène actuelle. C'est-à-dire qu'elle profite au Rassemblement National. Moi, ça me paraît évident et écrit. En ce sens que nous avons assisté en 2017 à l'effondrement des partis de gouvernement, nous assistons maintenant à l'effondrement des organisations syndicales, mais surtout, Marine Le Pen a ceci de plus sur Jean-Luc Mélenchon, qu'elle est capable de boucler avec le sujet précédent, c'est-à-dire la question de l'islamisme et de l'immigration, ce que Mélenchon ne sait pas faire.
Alors il y a un autre
Je peux revenir d'un mot là-dessus, sur le Front National.
Allez-y d'un mot, parce que vraiment, on a un sujet important à traiter derrière, là.
Pour aller dans le sens de Dominique, je pense qu'une des conséquences de ce mouvement, c'est que le discrédit qui était celui dont pâtissait Marine Le Pen depuis le débat d'entre-deux tours de la présidentielle, d'une certaine façon, la difficulté dans laquelle s'est trouvé le président de la République, va remettre pour elle, non pas les compteurs à zéro, mais lui redonner l'oxygène qu'elle avait perdu depuis.
Donc, comme c'était un mot intéressant, on a bien fait de vous l'accorder. Je pense qu'il y a une autre difficulté de communication politique qui surgit maintenant, et qui est l'écart entre... la perception des mesures annoncées par le président de la République et l'extrême difficulté de leur mise en œuvre. Paul Lassen, qui prépare cette émission pour nous, regarde aussi ce qui se passe dans les médias en général d'intéressant dans la semaine. Et il a relevé une enquête du service économique d'Europe 1 suite à la demande d'Emmanuel Macron de donner une prime de fin d'année à leurs salariés. Et sur les 200 entreprises contactées par la rédaction, seule une petite quinzaine sur les 200 se disait déjà en mesure de verser cette prime aux salariés concernés. La majorité pointait le fait que les conditions d'exonération, d'attribution, n'étaient pas assez claires. Alors, sur l'autre prime, c'est-à-dire la prime d'activité pour que chaque salarié au SMIC gagne 100 euros de plus, la caisse d'allocation familiale, qui est chargée de cela, a dit qu'elle n'était pas capable de le faire pour le 1er janvier. Donc, on a un vrai problème, là, parce qu'on se retrouve avec l'annonce de mesures, une traduction simple de ces mesures, et une ahurissante complexité pour les mettre en œuvre qui fait qu'on risque de ne pas y arriver. Et à ce moment-là, la parole présidentielle est désavouée, Dominique Reynier.
Moi, ce qui m'étonne dans cette mécanique qui revient à passer aux entreprises la patate chaude, en tout cas une moitié de la patate chaude, c'est que peut-être nos auditeurs le savent-ils déjà, mais sur les 2 300 000 ou 400 000 entreprises qu'il y a en France, il y en a 2 200 000 qui sont petites, qui ont moins de 10 salariés, qui ne pourront pas, évidemment, faire cela, parce que ce n'est pas possible, tout simplement. Ça n'est pas dans
l'ordre. La prime spéciale, ce ne sera pas elle, mais la prime d'activité, ce n'est pas elle qui paye.
Oui, bien sûr, mais sur la question du geste que peut faire l'entreprise...
Le geste peut être fait que par les plus grandes entreprises.
Par les plus grandes entreprises qui emploient finalement 30% des salariés, grosso modo, peut-être un peu moins même aujourd'hui.
C'est pour ça que le sujet prime d'activité est probablement plus important. D'un mot, Laurent Bigorre, mais d'un mot vraiment...
Oui, élargissons le sujet. Les mesures de pouvoir d'achat en sortie de crise, elles sont extraordinairement difficiles à mettre en œuvre. Je prends 1936-1968, et par ailleurs, généralement, elles sont de faible durée dans le temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le président, il a été interrogé sur trois sujets, en réalité, à travers ce rapport de force.
Deuxième point, trois sujets, je ne peux pas, je suis désolé. Bon. Je vous demande un mot, et vous me dites deuxième point, trois sujets.
La pensée complexe.
Vous êtes mûr pour faire de la politique. Allez, on passe au Brexit maintenant, qui est un autre endroit où faire de la politique est extrêmement compliqué, dans quelques instants.
Jusqu'à 11h, vous êtes avec Olivier Duhamel pour Mediapolis. Et alors Olivier, vous recevez aujourd'hui deux invités, Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne, et Dominique Reynier, directeur de la Fondation pour l'innovation politique.
Et comme nos auditeurs fidèles le savent, Alice Baudry, qui est directrice du développement et de la stratégie à l'Institut Montaigne, suivent pour nous les médias internationaux. Et cette semaine, le grand événement avec lequel on va terminer cette émission, c'est évidemment le blocage du Brexit, avec cette chose assez extraordinaire de la Première ministre étant obligée à la dernière minute d'annuler le vote qui devait suivre les 48 heures de débat sur l'accord passé entre Theresa May et l'Union européenne, parce qu'elle aurait été balayée. Alice a regardé pour nous, Alice Baudry, les titres, les principaux titres des journaux. The Guardian a publié un article justement le 13 novembre sur les titrailles. Je vous en résume quelques-unes. Alors, bonne nouvelle pour la Première ministre. Deux papiers ont été publiés en soutien dans The Express, qui présente une photo de Theresa May souriante et titre « Maintenant, laissez-la passer à autre chose ». Et The Mail, « Maintenant, laissez-la occuper le poste ». J'aime bien la répétition du « laissez-la arrêter de la harceler » en quelque sorte politiquement. Malgré 2 mois de critiques acerbes de la part de ses opposants intransigeants et dans l'impasse sur le Brexit, près des 2/3 des députés conservateurs l'ont soutenu, ajoute le Mail. Mais sinon, elle s'en prend de tous les côtés. The Mirror, c'est un canard boiteux pour Noël. Loi est cuite, sympathique, hein, loi est cuite. Le journal la décrit comme blessée, abattue, et affirme qu'elle n'a réussi à survivre au vote de censure qu'en promettant, vote de censure des députés conservateurs, qu'en promettant de ne pas se représenter à la direction du pays pour les prochaines élections. Et The Daily Telegraph, un vote pour rester, mais quand partira-t-elle ? Le Financial Times, enfin, est un peu plus sobre. May survit au challenge des Brexiteurs, mais la marge ne parvient pas à réprimer la révolte. The Times, May gratte la maison. Theresa May, blessée, rentrée chez elle après un vote de censure. The Guardian, le coup Tory échoue, mais l'ampleur de la rébellion endommage May. Finalement, c'est très, très impressionnant de voir que partout, les gouvernants de grandes démocraties qui étaient relativement bien réglés par le fait que c'est le Premier ministre, c'est le chancelier ou la chancelière qui dirige avec son parti en général et que son parti au Royaume-Uni, en coalition, mais en coalition qui tient en Allemagne, c'est le président de la République en France qui gouverne pendant les 5 ans et l'électeur juge à la fin. Et maintenant, on voit Merkel obligée d'annoncer qu'elle abandonnera le pouvoir à la fin de son mandat, quoi qu'il arrive. Theresa May, obligée d'annoncer qu'elle abandonnera le pouvoir à la fin, quoi qu'il arrive. Macron n'en est pas encore là, mais si ça se dégradait, ça...
Hollande en était là.
Aussi. Hollande en était là. Il y a un dérèglement général des démocraties qui nous entourent. C'est le dernier... Il nous reste une minute chacun. C'est la dernière chose sur laquelle j'aimerais entendre nos prestigieux invités Laurent Bigorgne et Dominique Reynier. Laurent Bigorgne.
En un point, je trouve qu'elle est extraordinairement résiliente, Theresa May. Elle a vécu une semaine d'une densité politique et d'une violence. C'est miroité par les titres de journaux que vous rappelez. Elle est toujours là. Alors, est-ce qu'elle a juste acheté un temps de survie ou est-ce qu'elle arrivera à faire davantage ? La question du Brexit n'est pas tranchée. La question de l'Irlande reste première. Mais je suis frappé. On disait tous en début de semaine qu'elle ne passerait pas la semaine. Elle est toujours là. Et pour l'instant, elle continue de manœuvrer sa barque.
Dominique Reynier.
De manière générale, Olivier Demel, sur la question que vous avez posée, la globalisation et ses turbulences posent la question de la possibilité d'une pérennisation du modèle démocratique. C'est la crise que nous traversons dans le monde démocratique, est une crise de la globalisation singulière, où les peuples se demandent s'il est encore possible pour eux, en tant que souverain, de peser sur l'orientation de leur existence. Et la réponse qui souvent leur est soufflée ou leur vient à l'esprit, c'est qu'il est de moins en moins possible ou qu'il ne l'est plus du tout. Et je crois que ça participe. Alors, ce ne serait pas exactement le cas pour tous les pays que vous avez cités, il faudrait voir dans le détail, mais ça participe en tout cas certainement de la fissuration de ces ordres démocratiques nationaux et du système démocratique en général.
Heureusement, il y a les artistes, quand tout va très mal, qui nous... redonne du baume au cœur et suite à ce qui s'est passé à Strasbourg, on va vous faire entendre une chanson italienne qui avait été écrite après les attentats de 2015 par Ermela Metta et Fabrizio Moro, qui est chanté par eux deux. Non mi fatto niente, ça ne me fait rien, pas dans le sens dont je suis indifférent, ça ne me fait rien dans lequel vous n'arriverez pas à nous atteindre. Écoutez. Vous ne m'avez rien fait, vous n'avez rien eu parce que tout va au-delà de vos guerres inutiles. Voilà une façon de conclure un peu plus joyeuse que les nuages annoncés parfois au cours de cette émission sur les difficultés de la démocratie. Merci à tous. Si vous voulez écouter, surtout faire écouter par vos amis cette émission en podcast sur Europe 1.fr. C'est très facile, on tape Internet, Europe 1, Mediapolis, podcast, ça vient tout seul.